Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis.
Je t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, police-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ah, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo. Arrivati là, ti do un bacio.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français mondain ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Épisode 6. Alain, Remy, Delon, Jean-Paul et les autres. On l'a évoqué dès le premier épisode de cette série, Alain Delon s'est donné pour maître 3 cinéastes au moins, René Clément, Luchino Visconti et Jean-Pierre Melville. Mais du côté des actrices et des acteurs, qu'en est-il ? Que pensait Delon de ses partenaires à l'écran ? Quel rapport le solitaire Delon entretenait-il avec ses semblables sur les plateaux de tournage ? Et eux, que pensaient-ils de lui ? C'est ce que nous allons découvrir ici en resserrant l'objectif sur 4 autres monstres sacrés du cinéma français qui lui ont donné la réplique sur grand écran. 2 femmes, Romy Schneider et Simone Signoret. 2 hommes, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Mais quoi qu'il en soit, au bout du chemin, c'est toujours Delon que l'on retrouvera. Alain, Delon et les autres, c'est parti.
Y a pas de metteur en scène dans ce film de merde ?
Bonjour, madame.
N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce sont des acteurs qui jouent.
C'est pour son film « Les acteurs » que Bertrand Blier avait confié à Alain Delon le soin d'incarner la mémoire d'un cinéma disparu, en évoquant, devant des chaises dites de metteurs en scène et sur un plateau de tournage, les souvenirs de Gabin, Montand, Signoret, Ventura ou Bourvil.
Personnellement, je suis prêt. Vous pouvez demander le moteur.
Moteur.
Ça tourne.
Annonce.
Qu'est-ce que je mets sur le clap ?
Coupé, merde, qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce que je mets sur le clap ?
J'en sais rien, moi.
T'as qu'à mettre sicilienne.
Sicilienne ?
Sicilienne.
Silence !
C'est quand vous voulez.
Moteur.
Tourne.
Annonce.
Sicilienne en première.
Action.
Il va pas y en avoir beaucoup d'action.
Alors je dis pas action, je dis partez.
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire. D'observer un moment de silence. J'ai pas besoin qu'on me dise de partir, je sais quand je dois partir. Moi, je suis un mec à silence. J'ai une gueule à silence. Sauf que là, ça me fait du bien de parler. Alors, donnez-moi des nouvelles. Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Vous arrivez à tenir face aux Américains ? Et vos acteurs, comment ils sont ? L'important, c'est les acteurs. Moi, j'ai connu Gabin. Et puis Lino aussi. J'ai tourné avec eux. Pourquoi vous n'avez pas mis mon fauteuil là, avec les 2 autres ?
On savait pas que vous alliez venir.
C'est votre régisseur ?
C'est moi, monsieur.
Faut toujours mettre un fauteuil, mon gars, pour un ami qui vient dire bonsoir. Fauteuil avec son nom. Ça lui fait plaisir. Il se sent considéré. Vous avez des fauteuils pour Bourville ? Simone et Yves ? De Funès ?
On a tous les fauteuils.
Alors sortez-les tous. Qu'on se sente en famille.
La nostalgie à l'état pur et un Delon qui parle du cinéma comme d'une grande famille. On peut rêver. Il n'empêche, Delon n'a jamais mégoté son admiration pour ceux qui l'ont précédé. Comme ici, quand il parle de Burt Lancaster et de Jean Gabin au micro de Selim Sasson de la RTBF en 1979.
Action.
Disons que Lancaster est toujours un très très grand acteur. Et disons Lancaster à l'époque était un peu dans le monde, en Amérique et dans le monde entier, ce que Jean Gabin était pour nous Français européens, c'est-à-dire le monstre sacré, l'acteur en pleine possession de ses moyens et l'acteur au top de sa carrière et au niveau le plus extrême. Donc c'est une rencontre toujours très importante parce que c'est des valeurs que moi j'ai toujours beaucoup respectées, des choses auxquelles j'ai toujours été très sensible, qui est ce qu'on appelle chez nous, si vous voulez, la hiérarchie, les vraies hiérarchies professionnelles. Donc Lancaster, au même titre que Gabin, était pour moi un patron. Donc un patron, c'est quelqu'un qu'on observe, c'est quelqu'un qu'on étudie, c'est quelqu'un qu'on essaie pas de copier, mais qu'on essaie d'observer pour déceler des choses que l'on n'a pas encore acquises ou que l'on ne connaît pas encore assez bien. Et c'est à ce niveau-là que j'ai travaillé avec Lancaster et c'est là aussi que j'ai beaucoup appris. Moi, j'avais toujours une chose qui m'a frappé lorsqu'on était enfant. Je sais pas, vous avez sûrement rêvé d'Amérique ou rêvé de Valparaiso et en général ou du Mexique. Et lorsqu'on se retrouve en Amérique ou à Valparaiso, au Mexique, on est en général déçu. On dit, ah, Acapulco, c'était ça, finalement. Et dans le fond, il vaudrait presque mieux rester sur ses rêves, ne jamais connaître. C'est le cas contraire avec des acteurs comme Gabin ou comme Lancaster. On a encore beaucoup plus de joie à les découvrir, à les apprendre, à les connaître, parce que c'est exceptionnel.
Bon. La dernière fois, on a parlé de la confiance, ce truc formidable qui ne se commande pas. C'est bien ce que vous disiez, Strabici. Eh ben, mon vieux, je vous parle.
J'écoute.
À notre micro, l'historien du cinéma Jean Olé-Laprune, puis le cinéaste Bernard Stora, ont analysé le tandem que forment Gabin et Delon, ressemblance et dissonance incluses, sur fond d'admiration réciproque.
Je pense que Jean Gabin a eu plusieurs fils spirituels. Lino Ventura, ça c'est évident. Il y en a un qui est moins évident, c'est Gérard Depardieu. Ils ont fait 3 films ensemble quand même. Et je crois que Jean Gabin l'avait repéré en disant c'est qui ce comédien. Et effectivement, il y avait Alain Delon à cette nuance près que Delon n'avait pas toute la patte des jeux possibles qu'avait Jean Gabin. Alain Delon n'aurait pas pu faire Jean Valjean, par exemple. Gabin était capable de faire des comédies, Delon ne l'était pas. Maintenant, il y avait chez les deux cette espèce d'instantanéité, d'évidence charismatique qui fait que quand ils arrivent dans un plan, quand ils arrivent dans une scène, on ne voit qu'eux. Ouais. Et donc ça, Gabin l'avait bien reconnu, effectivement, quand ils avaient fait Mélodie dans sous-sol. Il s'était méfié un petit peu du gamin. D'autant plus méfié qu'il avait quand même, Alain Delon, il avait quand même viré Jean-Louis Trintignant. Il avait racheté le contrat de Jean-Louis Trintignant pour jouer dans le film. Enfin, il avait été très très insistant et n'acceptant pour être rémunéré que les droits japonais, ce qui le rendra riche. Mais, voilà, donc on pouvait se méfier quand même de quelqu'un. Mais bon, ils avaient des goûts en commun. Les courses, par exemple. Ouais. Les courses de chevaux. Ils partageaient ça. Mais ils faisaient partie, effectivement, un des héritiers de Jean Gabin, oui.
Alors j'en ai marre.
Mais Gabin était le patron. Voilà, donc personne ne élevait la voix devant Gabin ou...
Bernard Stora.
D'ailleurs, quand il y avait Gabin, et là il y avait donc Gabin plus Delon, plus Lino Ventura et Amedeo Nazzari, un certain nombre de comédiens qui avaient aussi leur importance, c'était le patron. Donc, et puis, Delon avait une très grande admiration pour Gabin, avec lequel il avait déjà tourné. Et il y avait ce côté un petit peu de relation filiale, de passation d'une génération à une autre. Il est évident que Gabin était complètement convaincu de ce que Delon avait de spécial.
Cela posé, arrive forcément le moment où, le temps aidant, l'élève dépasse le maître. Le jeune a même l'audace de penser qu'il pourrait aider l'ancien à se renouveler. Sans l'ombre d'une cruauté, mais non sans malice, c'est ce qu'a fait Delon en produisant le film de José Giovanni, Deux hommes dans la ville, et en offrant à Gabin le rôle d'un ancien flic devenu éducateur social qui se prend d'affection pour Gino, un délinquant joué par Delon. Ce dernier, dans le journal de 13h d'Yves Mourouzi sur France Inter, au moment de la sortie du film en 1973, revient sur ce moment clé de sa relation avec Gabin.
La première chose qui m'a frappé, c'est que j'ai produit ce film parce que ça me permettait d'offrir un grand rôle à Gabin. Ce qui ne veut pas dire que Gabin, dans ses dernières années, n'a pas eu de rôle à sa mesure. Je crois que celui-là, plus que les autres, permettra de retrouver un Gabin qui sort un peu des sentiers battus, un peu de ce que j'appelle, moi, le Gabin de papa, c'est-à-dire une certaine facilité, une certaine aisance chez Gabin. Je lui ai demandé, avec José Giovanni, nous lui avons demandé un peu plus et d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de se lever, de se réveiller, de se ressaisir, ce qu'il a, je crois, admirablement compris et admirablement fait.
Mais je crois que ce qu'il y a de frappant, puisque vous parlez de Gabin, Alain Delon, dans ce film, c'est qu'il n'y a pas une colère de Gabin. Gabin ne se met, par exemple, jamais à table pour manger sa soupe.
Non, parce que d'abord, il n'a pas de soupe à manger, il y a des colères, ce sont des colères de Delon, mais je crois que c'est ce qui est important. Gabin n'a pas besoin de piquer des colères pour être là, pour peser ce qu'il pèse. Il est beaucoup plus facile, dans le contexte d'une scène, d'avoir à s'exprimer violemment. Il est beaucoup plus difficile, souvent, de recevoir et de montrer, de faire passer ce que l'on reçoit. Ça, c'est une chose que Gabin est maître en la matière.
Bonjour.
Je viens vous parler.
Oui, j'écoute.
Rentrez, on sera plus tranquille. Dites-moi, je viens de voir Guétreau.
Et alors?
Depuis la dernière fois, vous n'avez vraiment pas revu le Marcel et sa bande? Vous en êtes sûr?
Je suis plus sûr de rien.
C'est pour une réponse.
Et ouais, c'est la mienne.
Je vous demande si, oui ou non, vous avez revu Marcel et sa bande.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes comme l'autre, vous doutez?
Non, mais j'ai besoin d'être rassuré.
Bah, comptez pas sur moi. Puis tant pis pour vous si vous perdez confiance. Bah, allez-y, farfouillez dans ma vie.
Quoi?
Oui, je suis poli. Je comprends mieux maintenant, Cazeneuve. Vous m'avez pris pour un cobaye. Moi, j'étais sur la confiance. Et vous, sur le calcul. Est-ce que vous attendez que je retombe? Ça vous ferait plaisir, hein, de venir vous pavaner devant moi en tôle. Mais rassurez-vous, je ne donnerai pas ce plaisir. Ni à vous, ni à Guétreau. Maintenant, je vous préviens. Le premier qui vient me faire chier à me poser des questions, je lui casse la tête. Vous entendez? Je lui casse la tête.
Et après Gabin, le duo Delon-Belmondo. Alors, rivaux ou complémentaires? Frères jumeaux ou frères ennemis? Complices ou concurrents? On a tout dit, ou presque, sur ce tandem. Alors comment revenir une nouvelle fois sur cette médaille à deux faces? Peut-être d'abord en remontant le temps, comme nous y incite l'écrivain Jean-Marc Parisi, quand il dit...
Delon, il racontait très bien comment, si Belmondo ouvre la porte d'un compartiment de train... et glisse sa tête, tout le monde va se marrer. Si c'est de long, ça fera rien du tout, quoi. Bon, voilà. En même temps, vous avez vu comment, d'une certaine façon, il s'est arrangé pour récupérer le côté sympa et le côté souriant de Belmondo dans Borsellino. Borsellino, c'est quand même un film qui a été en partie produit par Delon. Voilà. C'est vrai que au milieu des années 60, quand Delon s'exile aux États-Unis, il le fait en partie. Parce que son principal concurrent en France, en termes d'acteur, c'est Belmondo, et que dans ces cas-là, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut, d'une certaine façon, le dépasser en obtenant une notoriété mondiale. Donc comment faire? La seule façon, c'est d'aller à Hollywood, en fait, en quelque sorte. Le départ de Delon vers les États-Unis, il est en partie lié au fait qu'il veut bouffer Belmondo, d'une certaine façon. Voilà. Il n'y arrivera pas parce que ça se passe pas bien aux États-Unis. Enfin bon, les films sont pas terribles, oui. Et il rentre vite, en fait.
Laissons aussi à Jean Olé-Laprune le soin de rendre compte de cette relation. Non sans avoir écouté un extrait de Borsalino de Jacques Deray, l'un des trois films que Delon et Belmondo ont tourné ensemble.
Hein ? Ça détend ?
Ah oui !
Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquille.
T'as raison.
Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand.
Explique.
Poli.
Quoi, Poli ?
La boucherie.
Ça m'intéresse pas, la boucherie.
Pourquoi ?
J'aime les bouchers.
Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Poli. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et il bascule.
Peut-être, mais ça m'intéresse pas.
Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein ?
Je vais te le faire à pile ou face.
Pile ?
T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi.
C'est le clown blanc et l'Auguste, un petit peu, Delon et Belmondo.
Jean Olé-Laprune.
Puis je trouve que, en regardant leur filmographie à l'un et à l'autre, Belmondo prend beaucoup moins de risques qu'Alain Delon dans les projets. Risques avec parfois des catastrophes artistiques. Hein, je veux dire, des films qui aujourd'hui sont difficilement sauvables, mais qu'il a eu le courage d'essayer de mettre en scène sur des sujets pas simples. Parfois c'est réussi. Effectivement, Attention les enfants regardent, qui est un film méconnu. Absolument. Le professeur. Parfois c'est complètement raté. Je sais pas, Le Passage ou Dancing Machine, pour prendre deux exemples qui me traversent. Mais il y a deux choses qui sont. Il y a une anecdote que je trouvais très intéressante de Patrice Lecomte sur le tournage d'Une Chance ou deux, qui les réunissait pour la dernière fois ensemble. Ils tournaient dans un petit village derrière Grasse. Et quand Belmondo arrivait, tous les spectateurs qui étaient massés derrière les barrières pour voir les deux vedettes et tout, quand Belmondo arrivait, les gens applaudissaient, rigolaient. Oh, Jean-Paul et tout et tout. Par contre, quand Delon arrivait, il y avait un silence spectral qui arrivait. Ouais. Tout le monde avait. Ouais. C'est pas de la peur, mais c'est peut-être du respect. C'est peut-être il imposait quelque chose. Ouais. C'était, il avait une présence qui était tout à fait étonnante et qui se reflète dans ses films, c'est évident, mais également au quotidien. Et cette histoire le prouve.
Très polo,
s'il vous plaît.
Attention. Allons-y, Alain. Allons-y, Alain.
Bon.
Poursuivons notre exploration des rapports de Delon avec les autres acteurs, ses partenaires à l'écran. Qu'en dire qui aille quelque peu à l'encontre des idées reçues sur Delon l'ombrageux ? Le plus simple est de faire appel aux souvenirs et aux regards de Bernard Stora, qui fut l'assistant et de Jean-Pierre Melville et de Delon.
Vous, tu es prêt ?
Si vous voulez, il était assez bon camarade. Ça, je crois que ça mérite d'être signalé, parce que cette personnalité qui est toujours indiquée comme difficile, c'était un bon camarade. Je ne l'ai jamais vu rudoyer, comme le font certains comédiens, stars, des acteurs de second rôle ou un figurant. Voyez, il avait une certaine solidarité. Il venait sur le plateau, on l'appelait, il venait sur le plateau, il tournait, il repartait. C'était pas quelqu'un qui copinait. À l'époque, surtout, les équipes autour des vedettes étaient importantes. Ils avaient leur maquilleur, leur coiffeur, leur attaché de presse, leur photographe. Bon, Gabin était comme ça, donc...
Belmondo était comme ça, pour filer la métaphore de l'antagonisme.
Belmondo était tout à fait comme ça. Donc, sur un plateau, il y avait... C'était comme un campement avec
différentes tentes.
Exactement, différentes tentes. Et chacun avait son entourage qui s'installait là, et Gabin en particulier, qui était un personnage relativement peu mobile, disons, il arrivait sur le plateau, et il s'installait, et il n'en bougeait pas, voilà, il était là. Et d'ailleurs, il était là quelquefois, même quand il ne tournait pas. Delon, ce n'était pas du tout ça. Delon disait, à quelle heure vous pensez avoir besoin de moi ? Alors on disait, là on sera prêt vers 4 heures, mais je serai là. Et ce qu'il faisait entre-temps, on ne savait pas. Quelquefois, il quittait le studio. Il allait faire ses affaires, mais on était absolument certain de le retrouver à l'heure qui était prévue. Et s'il fallait attendre quand il revenait, il attendait. Voilà. Delon ne copinait pas.
C'est ça. Ouais.
le côté, on va s'asseoir dans un coin et puis comme ça, en bon copain, ça n'existait pas pour lui, ça l'intéressait pas. Enfin, ça l'intéressait pas. Je crois qu'il en était incapable.
Ah oui ?
Je crois qu'il était un personnage extrêmement réservé. Il devait estimer qu'il n'avait pas grand-chose d'intéressant à dire. Je pense, hein, je crois. Il parlait pas beaucoup. J'ai passé quand même au moment où il a tourné ses propres films et où j'étais proche. On parlait très peu, très peu. En tout cas, on n'avait pas de discussion amicale, mais oui, même oui. De discussion suivie. Voilà, mais il s'entendait très bien. Il s'entendait très bien avec Montand. Il avait beaucoup de respect pour Bourvil, qui en plus était dans une situation malade. Donc, évidemment, qu'on avait un petit peu envie de. On était très émus de voir Bourvil, qui était magnifique dans le film. Mais il s'est très bien comporté par rapport à Jeanne Maroja Volonté, qui n'est jamais rentré vraiment dans l'univers de Melville, avec lequel Melville ne s'entendait pas bien, ne se sentait pas. Et donc, il y a eu à un moment donné un clash où Jeanne Maroja Volonté a décidé de quitter le film. Il avait déjà tourné beaucoup de scènes, donc c'était vraiment quelque chose de très grave, mais il a décidé qu'il partait, puis voilà, qu'il ne reviendrait pas. Et donc c'est Delon qui est sauté dans sa voiture, qui a conduit comme un fou, qui est allé à l'aéroport d'Orly, puisqu'il n'y avait pas à Roissy à l'époque, et qui l'a convaincu, il a dit « mais c'est idiot, premièrement, tu compromets gravement le film, c'est pas bien, et notre travail à tous, deuxièmement, tu ruines ta carrière, tu ne peux pas faire une chose pareille ». Et il a fini par le ramener. C'est ça, c'est là, c'était un bon camarade de travail, oui, avec les comédiens, les grands et les petits. Moi, je l'ai toujours trouvé impeccable.
La vie amoureuse d'Alain Delon s'est parfois confondue avec sa vie d'acteur, comme en témoignent ses liaisons avec Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille Darc ou Anne Parillo. Liaisons artistiques et hautement médiatiques aussi. Celle avec Romy Schneider en est peut-être l'exemple le plus éclairant. Et cet extrait de Christine, de Pierre Gaspard Huit, leur premier film en commun, une préfiguration singulière, même si la voix de l'actrice y est doublée.
Mon père doit s'inquiéter. C'est la première fois que je rentre si tard. Oh, une petite goutte de pluie. On dit que les amoureux qui ont reçu une bonne averse quand ils font leur première promenade s'aimeront jusqu'à leur mort.
Christine, je vais vous faire une promesse. Une grande promesse.
Non. Ne promettez rien. Entre vous et moi, ça durera ce que ça durera. Je vous jure que je ne vous demanderai jamais rien. Oh, ça y est, il pleut.
Vous voyez, on s'aimera peut-être toute la vie.
Peut-être, mais il ne faut pas le dire. À demain, Franz. Et d'ici là, ne m'oubliez pas, mon lieutenant.
Bien des années après la fin de cette histoire, Alain Delon, au micro d'André Asseo et de Jean-Claude Loiseau sur France Inter, revenait dessus avec la distance d'un prince consort.
Christine.
Comme il le dit lui-même.
La petite nuance et d'importance, c'est que moi, j'étais Monsieur Schneider. La star, c'était elle. Moi, j'étais le petit français qui l'avait kidnappé. J'étais, et alors bon, je vous dis pas, la réputation pour les, dans les Allemands, je me souviens des articles à l'époque, c'est un playboy, c'est un voyou, c'est tout ce qu'on veut, c'est un gigolo. Enfin, bon, bref, il y avait que ça, quoi. La star, c'était elle. Alors, effectivement, j'ai découvert, donc, cette espèce de star system, bien sûr, par rapport à Romy, en vivant avec elle et à ses côtés, et c'est pas vraiment ce que j'ai le plus aimé, hein. C'est pas ce que j'ai le plus aimé. Peut-être en fonction de ma position, disons, de prince consort, vous voyez, parce que ça me paraît très difficile d'être prince consort.
Oui, mais vous allez devenir très vite autre chose
encore.
Que le prince consort.
Je l'étais pas encore.
Ouais. Et là, comment ça se vit, la vie de quelqu'un qui arrive à la starisation avec les photographes, de ne pas pouvoir faire
un pas
tranquille
moi, là.
Du couple.
Ah, du couple. Non, mais le couple, c'était elle. Le couple, je veux dire, si tu étais un autre que moi, si tu étais pareil, c'était elle, le centre d'attraction. Vous comprenez, elle était avec Delon, mais elle aurait été avec un autre, c'était bon, ça rien n'aurait changé. Donc moi, j'étais quand même très conscient de ça.
parce que j'avais quand même aussi mon background, j'avais quand même aussi ma formation, j'avais quand même aussi l'homme que j'étais. Donc ça m'amusait, je trouvais pas ça vraiment excitant, mais je savais exactement qui était qui faisait quoi. Ça a toujours été très clair. Vous savez, je me suis jamais pris comme une mouche sur un papier collant. Moi, j'ai toujours été très lucide, très conscient tout le temps. C'est sûrement, je crois, ce qui a fait aussi ma force dans les années à suivre.
Mais c'est évidemment la piscine de Jacques Deray qui, en 1969, offrit le plus bel écrin à ce couple de cinéma. Et cette fois, c'est Delon qui mène le bal. Si l'on en croit ce qu'il en disait au micro de Laure Adler, 50 ans plus tard.
Personne ne voulait Romy Schneider dans la piscine. Personne, et vous le savez. J'ai dit à tout le monde jusqu'au jour le dégoût, et maintenant vous m'emmerdez, ce sera Delon et Schneider où il n'y aura pas de film, ça vous va? Bon, ils ont accepté, ils voulaient machin, Monica Vitti, ils voulaient l'américaine, Mike Hinson, je sais pas quoi. J'ai dit, c'est Romy. Mais enfin, vous ne rendez pas compte, elle ne vaut plus rien, c'est rien, etc. C'est pas... J'ai dit, écoutez, vous m'emmerdez plus, maintenant où c'est Romy et Delon, il n'y aura pas de film. Ah bon, le film a été fait par Doré.
Avec elle est sublime.
Attendez, avec Romy, le film est sorti, ils avaient tous oublié là. Il n'y en a pas un qui est venu me dire « t'avais raison, excuse-nous, c'est fabuleux ». Personne n'aurait été mieux que Romy dans ce film. Pourquoi? Pourquoi je l'ai senti? Pourquoi je l'ai compris? Ne me le demandez pas. C'est comme ça. Il se trouve que j'aurais pu me gourer, ça aurait été à chier. Il se trouve que c'était sublime et que Romy était absolument magnifique. Voilà.
Tiens.
Il est tard.
Pas loin de midi.
Les autres sont déjà levés.
Je n'ai vu personne.
J'ai pas envie de me lever. Il y a des jours qui me réussissent pas aujourd'hui, par exemple. Passer à demain et qu'on n'en parle plus.
Eh ben, reste couché. Tu veux que je tire les rideaux?
J'ai trouvé Harry bien tendre avec toi hier soir.
Il est toujours tendre avec les femmes. C'est agréable, tu sais. Et sa fille, à propos.
Quoi, sa fille?
Oh, rien.
Comment tu la trouves?
C'est à toi qu'il faudrait demander ça.
Elle est curieuse.
Si je comprends bien, je fais ma valise et je m'en vais.
Attends un peu quand même.
Poursuivons encore cette évocation de certains partenaires du solitaire samouraï Delon à l'écran. La voix que l'on va maintenant entendre en fait partie.
Où ça?
Elle est celle de l'une des grandes stars féminines du cinéma français.
Italien.
Delon et elle ont tourné ensemble deux films. La Veuve Coudert, de Pierre Granier-Defer, en 1971. Et l'année suivante, Les Granges Brûlées, de Jean Chapeau. Au micro de Monique Berger sur France Inter, Simone Signoret, car c'est bien d'elle dont il s'agit, ne tarit pas d'éloges sur son partenaire.
Simone Signoret, je pense que c'est votre avis aussi. Je crois qu'Alain Delon n'a jamais été aussi sensible. Il a une fraîcheur qu'on ne lui trouve pas dans d'autres films. Et en plus, une émotion que j'ai vue en lui pour la première fois.
Nous aussi. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'a jamais été charmant. Il a été charmant dans un film qui n'a pas marché.
Plus beau garçon,
non, je veux dire. Oui. Non. Mais je crois que c'est effectivement la première fois qu'il a eu l'occasion de montrer qu'il avait beaucoup de tendresse aussi. Je crois que c'est un peu lui qui. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il pourrait sûrement en parler mieux que nous, mais il n'est pas là parce qu'il tourne. Mais je crois qu'Alain, pendant très longtemps, a pensé que. C'était bon pour une carrière d'acteur d'être fort, d'être celui qui pleure pas, d'être celui qui a pas les chagrins, de faire du chagrin aux autres peut-être, mais lui il résiste. Et je crois que là finalement il vient de comprendre que c'est pas mal aussi des fois d'avoir des malheurs et de les montrer.
Est-ce que vous avez eu à non pas le guider, mais enfin le fait de votre présence. Non, bien sûr, mais le fait de votre présence devait être un atout pour lui.
Et le fait de la sienne était un atout pour moi. Je veux dire, vous savez, je crois me rappeler qu'on a à peu près eu la même conversation il y a pas très longtemps, il y a 4 mois, à propos de Jean, enfin à propos de Gabin. Vous savez, les acteurs, ça se prend et ça se donne des choses. Ça ne se joue pas tout seul. C'est des lieux communs, on le sait ça. Mais il y a des gens vraiment. qui vous tout ce que j'ai fait de bien dans le chat dirigé par Granier de Fer, c'est parce que j'avais l'œil de Gabin devant moi. Et là, si on est bien dans celui-là, c'est parce qu'on s'est regardé aussi. On s'est regardé. Quand on se regarde, c'est vraiment très facile de jouer la comédie.
Simone Signoret et Alain Delon dans un extrait de La Veuve Coudert.
T'as vu l'heure qu'il est ? J'ai fait plus grâce toute seule. Alors ton compte est prêt, il est là. Tu peux le prendre sur la table.
Très bien.
Où t'étais toute la nuit ?
Avec Félicie. Tu le sais parfaitement bien que j'étais avec elle, pourquoi tu me le demandes ?
Qu'est-ce que tu trouves à Félicie ?
Elle est jeune.
Tu dis ça comme ça ?
Oui. Écoute, je veux pas te mentir. Je veux bien mentir au monde entier, mais pas à toi.
C'est pas mal, hein ? Tu m'as traité comme si j'étais encore jeune. Puis maintenant, tu cours après une jeunesse. Une vraie. Et comme je crie, tu dis la vérité. Pourquoi ? Tu veux que je pleure ? Pourquoi t'es venu dans mon lit ? Qu'est-ce que t'es venu chercher ici ? Qu'est-ce que tu veux ?
Je sais pas. Des murs. Du feu. Toi aussi. J'aime bien ta maison, elle te ressemble.
Je veux plus te voir.
Tu me chasses.
Je veux plus te voir.
Signoret, Delon. Le tandem dérange certains, mais surtout séduit par l'intensité d'une rencontre au sommet. C'est elle, justement, que détaille pour nous Muriel Joudet, la journaliste et critique de cinéma du quotidien Le Monde.
Signoret, c'est particulier, ouais. Parce que Signoret, c'est quelqu'un qui a réussi, alors je ne saurais pas dire pourquoi, mais à vraiment faire exister sa vieillesse au cinéma. Mmh. Donc c'est vraiment une exception, Signoret. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension, je pense que ça c'est très important avec entre Delon et les femmes, et il y a une réplique dans Les Félins, je crois que c'est Jane Fonda qui dit à Delon « Je te désire parce que tu es pauvre ». Lui-même disait que Romy Schneider, la première fois qu'il l'avait vue, il disait « Elle fait partie de la classe sociale que je déteste le plus ». Et je pense qu'on ne comprend pas les rapports de Delon avec les femmes si on ne voit pas d'abord les différences de classe sociale. Et cette différence de classe sociale, elle se matérialise aussi par la différence d'âge. Lui-même le disait, il est entré au cinéma parce que des femmes qui avaient 6 ans, 7 ans de plus que lui, l'ont désiré. Et c'est là que la dimension de gigolo... Parce que le gigolo, c'est toujours quoi ? C'est le gigolo de 25 ans, il ne va pas avoir des femmes de 25 ans, il va avoir des femmes de 40 ans. Et cette idée qu'il a été fabriqué par le désir de femmes plus âgées que lui, je trouve ça vraiment très beau et je pense que ça a pu le prémunir d'une image qui aurait été celle peut-être d'un homme viril, macho, qui se sert, qui empoigne les femmes. Non, il a été d'abord cette figure de jeune premier possédé par des femmes plus vieilles.
Vous voulez un verre de vin ?
Pour illustrer ce parcours dans la galaxie des partenaires de Delon à l'écran, on aurait pu en citer bien d'autres encore, à l'instar de Maurice Ronet, François Perrier, Annie Girardot ou Nathalie Baye. Sans oublier des seconds rôles à qui il fut très fidèle de film en film, à l'instar de Michel Aumont, André Falcon, Renato Salvatori, Pierre Mondy ou Michel Auclair. Mais au bout du compte, et de la vie générale, ce qui prédomine, ce qui l'emporte, c'est l'extrême solitude d'un acteur hors norme. Comme le disent Bernard-Henri Lévy, lequel le dirigea dans « Le jour et la nuit ».
Delon n'avait pas d'amis. Delon n'avait aucun ami. Il avait son ami, c'était son chauffeur, ancien boxeur, la garde du corps. C'était un photographe, qui est un merveilleux photographe, qui travaille pour Match, pour tout ça. Et voilà, ses copains, c'était les paparazzis et les chauffeurs. Et un premier Delon avec Delon, c'était très étrange, parce que il vous regardait comme ça d'un air soupçonneux, il regardait si vous receviez des... Quand les SMS ont commencé, si vous receviez des SMS, et puis il était jaloux parce que lui n'en recevait pas. Vous voyez, il recevait pas de vœux pour le jour de l'an, par exemple, pour Noël. C'était très curieux. Et Douchy, il était seul comme un chien. Personne n'allait à Douchy. Donc il était... Non, pas d'amis, très seul. Très seul. Les femmes, et puis le metteur en scène du moment. Et les animaux.
Dans le parcours de Delon, de la vraie vie à l'écran, de l'homme à l'acteur, il y a donc cet isolement en commun, ce retrait du monde, cet exil volontaire dont nous parle ici la journaliste Muriel Joudet.
Oui, ça c'est fascinant de voir qu'il n'y a personne autour de lui. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait très attention à ce que sa vie privée ne vienne pas entacher l'imaginaire ouvert par les films, chose qu'on peut regretter aujourd'hui parce que j'ai l'impression que la vie privée ou la vie publique ou les apparitions publiques des acteurs entachent beaucoup ce qu'ils font dans les films. Et en même temps, je pense que le spectateur avait quand même la conscience assez aiguë qu'il y avait du vrai... Enfin, que le Delon qui apparaît dans Le Samouraï était peut-être aussi le vrai Delon. Et qu'on avait accès à une solitude, une mélancolie, une tristesse insondable qui était tout sauf jouée, tout sauf fausse, qui était la vérité de Delon, qui est ce regard de petit garçon triste. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas être joué.
Et c'est assurément de cette solitude qu'est né ce double permanent que Delon lui-même appelle Delon. Cette troisième personne du singulier, si souvent moquée. Certainement à tort, si l'on en croit le principal intéressé et la façon dont il s'en explique.
À la base, vous naissez, vous appelez Delon, vous appelez Dupont, ça vous l'avez pas choisi, c'est comme ça. Et puis lorsque vous devenez un acteur, lorsque vous devenez une vedette, une star, un personnage public, c'est plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire que vous devenez pour les autres cette espèce de Delon, disons, appelons-le comme cela, et vous êtes quelque part dépassé par ce phénomène, dépassé par cette machine, et arrive un moment où vous êtes obligé de l'être, de le rester, de le demeurer, donc de jouer au Delon souvent. Parce que...
C'est pour ça que vous parlez de Delon souvent, la troisième personne.
Absolument.
Parce que vous jouez au Delon.
Mais parce que ça a toujours été mal reçu et mal interprété, ou peut-être mal exprimé. Parce que pour moi, je parle justement de ce Delon-là, qui, quelque part, lorsqu'il arrive quelque part, est toujours en représentation, parce qu'il doit, et c'est son rôle de personnage public, comme c'est son rôle de star, il doit pratiquement essayer de ne jamais décevoir. C'est-à-dire qu'il doit toujours arriver tel qu'on l'attend, tel qu'on a envie de le voir, tel qu'on a envie qu'il soit.
La journaliste Muriel Joudet revient à son tour sur cette singularité dont elle analyse les mécanismes et la signification profonde.
Évidemment, quand il parle de lui à la troisième personne, il y a plusieurs lectures, il y a la mégalomanie.
Oui, mais qui n'est pas forcément la plus...
C'est pas très intéressant.
Oui.
Non, c'est quand on réfléchit deux secondes à ce que c'est que d'être Alain Delon, on a très vite envie de... à sa place de parler à la troisième personne. Donc, s'il sait que c'est une entité...
On rappelle que sa mère le promenait avec un panneau où il était marqué « Ne le touchez pas ». Donc, après ça, on ne peut que parler de soi à la troisième personne.
Oui, c'est la chose...
C'est naturel.
C'est tout à fait naturel. Toutes les grandes stars devraient parler comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote que j'avais lue dans une biographie de Marilyn Monroe, qui rapportée par Truman Capote, qui raconte qu'il observait Marilyn Monroe se contempler dans le miroir très longuement. Et Truman Capote lui demande « Qu'est-ce que tu fais, Marilyn ?» Et elle répond « Je la regarde ». Être une star, c'est friser la folie et déjà le dédoublement de personnalité de manière assez évidente. Il faut s'imaginer quand même qu'on voit son image démultipliée, projetée sur des milliers d'écrans. Bon, moi, je pense que c'est un métier qui ne peut que rendre fou. Et puis, il y a aussi donc ce dédoublement. La figure du double aussi est très importante dans sa filmographie. Et puis aussi peut-être l'intuition qu'il jouait, bon ça c'est ma petite théorie, à la troisième personne. qu'il était un il et qu'il se... Je pense qu'une star se vit un peu à la troisième personne. Elle mange, elle se réveille. Je pense que c'est un peu ça le... Je pense qu'une star se regarde vivre, de toute façon. Et Delon plus que les autres, sans doute.
Robert Klein, vous avez dit.
Dans le prochain épisode de cette série consacrée à Delon, on ne quittera pas vraiment la figure du double. En s'intéressant cette fois à un seul film. Mais quel film ? Monsieur Klein, de Joseph Losey. Un film voulu, produit et incarné par Delon.
Qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Peut-être le plus beau film de sa riche filmographie.
Tu sais, c'est une histoire un peu compliquée.
Un objet cinématographique à nul autre pareil, quoi qu'il en soit.
Bonsoir, Monsieur Klein.
Et qui brille comme un diamant noir et fascinant. Avec en son centre, un acteur qui démontre la force et la puissance de son jeu. Delon par Delon est un podcast original de France Inter proposé par Laurent Delmas. Et mise en onde par la Guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la Samouraï Karen Day, de la Tulipe Noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la Gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion. Avec eux, avec nous.
Avec moi.